Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il était formé à la London School of Economics, premier noir diplômé de cette école en 1924.
Pionnier dans la lutte de libération de l'Afrique, Sylvanus Olympio est certainement l'un des premiers à avoir très clairement exprimé la revendication d'indépendance aux grandes puissances colonisatrices. Une exigence qui va permettre à son pays, le Togo, d'accéder dès le 27 avril 1960 à la souveraineté internationale. C'est pourquoi ses compatriotes le considèrent toujours comme le père de l'indépendance. Suite aujourd'hui de notre série consacrée à ce personnage dont l'ombre continue de planer sur le paysage politique du Togo plus de 45 ans après.
C'est la montée des couleurs togolaises qui est salvée par un grand vivat de la foule. Les couleurs togolaises, vous les connaissez, bande jaune, bande verte, carré rouge marqué d'une étoile blanche. Le président Sylvanus Olympio est monté à la tribune tendue de soie rose. Il est figé face à cette foule, face aux couleurs togolaises qui montent dans le ciel.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellence, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie.
Cette indépendance, proclamée dans une grande ferveur populaire, marque pour le jeune État un tournant décisif. Mais pour celui qui va en devenir le président, c'est la consécration. Le couronnement d'un engagement militant sans concession, puisque Sylvanus Olympio est l'un des premiers nationalistes du sud du Sahara à défendre l'idée d'autonomie tout de suite, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est également de ceux qui vont s'opposer clairement à l'idée d'assimilation que propose la tutelle, Paris. Pour lui, ce n'est pas aux indigènes d'apprendre le français au détriment de leur langue, mais aux administrateurs de s'initier à celle des populations qu'ils sont censés servir. Le premier noir diplômé de la London Economic School doit désormais prendre en main les destinées de son pays. Pourtant, seulement 2 ans plus tôt, il ne jouissait plus de ses droits civiques. Il était même carrément écarté des élections législatives. Ce qui, bien sûr, a permis à son beau-frère et rival, Nicolas Grunitzky, de s'installer au pouvoir. Et au Juventus, de mettre Anani Santos de le remplacer sur le front nationaliste. Un passage à vide qui n'aura finalement pas duré bien longtemps, puisqu'au moment où il proclame, comme on vient de l'entendre, l'indépendance du Togo, il est parvenu à retrouver sa place de leader. Une fois installé au pouvoir, Sylvanus Olympio va très vite se révéler volontariste, voire dictatorial, dans son désir de doter le Togo, pays dépourvu de ressources naturelles, d'une économie performante. Il va multiplier les contacts sur le plan international, refuser de s'inscrire dans la scission qui, à l'époque, divisait le monde en deux grands blocs. Il va même se rendre à Moscou, alors que dans le même temps, il sollicite la Grande-Bretagne, la France, mais surtout la République fédérale d'Allemagne. Pour lui, les grands débats sur les idéologies communistes ou capitalistes ne peuvent concerner directement les Africains qui ont leur propre modèle à eux, leur approche de la gestion de la cité et des hommes, leur choix économique. Il va se rendre quelque temps après les indépendances aux États-Unis d'Amérique, où les journalistes de la chaîne NBC vont l'interroger avec insistance sur la neutralité, le non-alignement dont il fait preuve dans la guerre froide qui secoue le monde à cette époque. Une question importante pour eux.
Est-ce que vous pensez que les espoirs que vous aviez en 1947 ont été remplis? Je pense que oui. J'ai été confirmé dans mes opinions, à savoir que les Nations Unies vont prendre de l'ampleur et de l'importance. Monsieur le Président, comme vous le savez probablement, il y a deux choses pour lesquelles les Américains se sentent vraiment concernés par rapport à leur relation avec l'Afrique. La première est le non-alignement et la seconde est le communisme. J'aimerais vous poser quelques questions à propos du premier point. En 1961, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre d'être impliqué dans la guerre froide et toutes ses conséquences. Et comme les problèmes de la guerre froide sont le moralisme économique et politique, pouvez-vous m'expliquer comment vous arrivez à éviter toute implication ?
La République du Togo, par exemple, est le plus petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et tous les États de l'Afrique de l'Ouest, indépendants depuis peu, sont aujourd'hui très préoccupés par le développement économique de leur pays. Généralement, on nous dit que nous devons dévouer toute notre énergie et notre temps aux problèmes économiques, à la guerre froide, la bombe atomique, le désarmement, etc. Ce n'est pas faire preuve de neutralité. J'aimerais comparer ce qu'on nous demande à la politique qu'ont conduit les États-Unis au début de leur histoire. À cette époque, ils pensaient que la meilleure chose à faire était de concentrer toute leur énergie à leurs affaires intérieures, et notamment à leur protectionnisme, et non de s'impliquer dans les affaires européennes. Donc, j'ai envie de dire que notre non-alignement est plus ou moins la même chose.
Et qu'en est-il de la question que je vous ai posée tout à l'heure sur le moralisme ? Vous venez d'être indépendant et libre, alors comment pouvez-vous être neutre pendant la bataille contre le communisme sur les questions de l'indépendance et de la liberté ?
On ne peut absolument pas être neutre lorsqu'il s'agit de la liberté individuelle et nationale. Nous sommes nationalistes et nous croyons que la liberté pour des pays qui viennent d'être indépendants est tellement vitale qu'il ne peut y avoir de compromis sur ce type de principe. Donc je peux vous dire avec certitude que nous sommes pour la liberté individuelle et nationale.
Laissez-moi juste vous poser une question. Pensez-vous que c'est important pour une nation émergente africaine de ne pas devenir communiste?
Well, I know you in America, you are oversensitive about communism. In West Africa.
Je sais que vous, en Amérique, vous êtes très sensible sur ce sujet. En Afrique de l'Ouest, je ne pense pas que le danger du communisme soit aussi important que ça l'est pour vous. Imaginez, les Européens ont été pendant longtemps présents dans nos pays, et je ne pense pas qu'ils aient radicalement changé nos traditions et notre façon de voir les choses. Et donc, je ne vois pas comment le communisme, avec cette doctrine et ce mode de vie, et en arrivant comme ça, pourrait changer notre conception de vie en si peu de temps en Afrique de l'Ouest. Ça me paraît vraiment difficile en tout cas. Et c'est vrai que nous avons des jeunes intellectuels qui viennent et parlent de façon crédule du socialisme et du communisme, mais quand on voit la plupart des Africains de l'Ouest qui ont leur propre mode de vie et tradition, je ne pense pas que le communisme leur fera beaucoup d'effet.
impression on that for many, many years more to come.
En réalité, pour Sylvanus Olympio, la guerre froide n'est pas vraiment l'affaire des Africains. Sa préoccupation, c'est le développement de son pays, le Togo. Et tout partenaire qui accepte de l'accompagner, qui lui apporte des solutions, est le bienvenu. À condition qu'il n'ait pas pour intention, pour projet, d'installer à nouveau sa domination sur le pays. En réalité, Sylvanus Olympio est particulièrement soucieux, jaloux de son indépendance acquise. Pour rien au monde, il ne veut être à nouveau sous la coupe de quiconque.
We don't want to be dominated again by another country after having been dominated for so many years by the French.
Nous ne voulons pas être à nouveau dominés par un autre pays après avoir été dominés pendant de nombreuses années par les Français. Nous voulons décider de notre destin malgré nos difficultés économiques. Beaucoup pensent que le Togo est un petit pays et que par conséquent, il n'est pas capable de gérer convenablement ses affaires économiques ou d'avoir un budget équilibré. Cela est naturellement faux. Nous avons été capables de construire un réseau ferroviaire, des routes et des hôpitaux avec nos propres ressources, mais également, il est vrai, avec des prêts de la métropole. Mais attention, avant la guerre, il n'y avait pas de subvention de la métropole.
Sylvanus Olympio, tout en gardant d'excellentes relations avec la France, va mener une diplomatie tous azimuts. Son but est d'attirer les capitaux étrangers. Il pratique une politique de non-alignement.
Au mois de juin, nous avons assisté à une seconde conférence de Lagos. Cette conférence qui devait réunir les ministres des Affaires étrangères de tous les pays indépendants d'Afrique, était chargé d'étudier les projets des chartes de l'organisation interafricaine et malgache présentés en janvier dernier. Une charte remaniée est maintenant proposée et nous avons bon espoir qu'elle sera approuvée par la prochaine conférence d'Addis Abeba qui groupera, nous l'espérons, tous les chefs d'État africains. Profitant de leur séjour à Lagos, les ministres des Affaires étrangères du Nigeria, du Dahomey et du Togo se sont réunis pour élaborer des mesures pratiques en vue d'une coopération plus étroite dans les domaines économiques et culturels entre leurs pays. Je peux vous assurer que cette union régionale tant souhaitée entre le Nigeria, le Dahomey et le Togo est en bonne voie. Les études et discussions continuent. Notre problème le plus urgent n'est pas, comme on le prétend, la nécessité absolue pour tous les États africains de vivre sous un seul et même régime politique. Ce qui presse, au contraire, c'est la lutte pour notre développement économique et culturel, l'épanouissement de nos pays que nous avons réussi à libérer de l'exploitation coloniale. Or, ce développement ne peut être rapide que si tous les États africains s'entendent et collaborent franchement entre eux sans aucune prétention d'hégémonie. Voilà les credos du groupe dit de Monrovia. Et cette conviction a toujours été également la base de notre politique étrangère, car elle traduit bien nos idéaux de fraternité, de paix et de démocratie.
Sylvanus Olympio mise sur l'unité de l'Afrique, sur la coopération sous-régionale entre les États. Pour lui, c'est la clé face aux grands ensembles qui dominent le monde. Il faut parler d'une seule voix.
We appreciate that.
Nous apprécions ça, et c'est une des raisons pour lesquelles nous essayons d'unir l'Afrique aujourd'hui. Et comme vous le savez, ces choses ne sont pas très aisées. Nous essayons de commencer avec ce qu'il y a de plus facile à accomplir, et le plus rapidement possible, avant de nous attaquer progressivement aux problèmes les plus difficiles à résoudre. Et nous sommes bien conscients que les territoires africains doivent se regrouper s'ils veulent faire de grandes choses et connaître un véritable développement. Tout ce que nous venons de voir sont des pas dans la bonne direction. Vous avez d'une part un petit regroupement de territoires français qui ont en fait toujours formé un seul et même groupe, et d'autre part un regroupement plus grand de territoires français répartis d'ouest en est jusqu'à Madagascar. Tous deux font partie du groupe de Monrovia et c'est une très bonne chose. Nous faisons de réels progrès grâce à ces unions ou fédérations, si vous préférez. Cependant, je pense que nous devons y aller doucement et avancer de façon pragmatique, sinon bien sûr, nous échouerons comme nous avons échoué dans le passé.
Avec le Dahomey voisin, les relations sont bonnes. Il envisage d'ailleurs de créer avec lui une coopération économique et douanière plus importante, plus forte.
Comme vous le savez, il y avait avant une union douanière entre le Dahomey et les Togo.
Mais il y a quelques années, le Dahomey a décidé unilatéralement, si vous voulez, à introduire encore la barrière douanière. Et ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la barrière douanière des côtés dahoméennes, mais pas des côtés Togo. En d'autres termes, si vous quittez le Togo pour aller au Dahomey ou Dahomey pour aller au Togo, des côtés du Togo, vous n'aurez pas de difficultés avec la douane. Il n'existe pas. Mais il y a seulement la douane côté Dahomey. Monsieur Maga, le premier ministre de Dahomey, m'a déjà proposé la possibilité d'étudier une union douanière. Moi, je lui ai répondu en disant, monsieur, nous n'avons pas une barrière douanière contre Dahomey. Il suffit que vous faites disparaître votre barrière d'avoir en fait une union douanière, si ce n'est pas une union douanière, n'est-ce pas, sur papier ou si on n'a pas un accord proprement dit. Et je comprends très bien les difficultés du Dahomey dans cette affaire. Ils sont liés avec l'ancien AOF, aujourd'hui avec les Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire et Niger, au point de vue douane, et puis ils avaient, comme vous le savez, des tarifs préférentiels, et tout ça, ça ne rend pas la question facile. Mais ils sont déjà en bonne voie, ils sont en train de modifier leurs tarifs douaniers, afin que nous pouvons avoir les mêmes tarifs. Et j'espère, avec ça, ça sera plus facile avoir une union douanière avec les Dahomey, et comme l'avons eu d'ailleurs dans les passés.
Si sur le plan international, il est écouté et apprécié de ses pairs, tant africains qu'occidentaux ou orientaux, Sylvanus Olympio, qui par sa maîtrise de l'anglais et du français est devenu l'interprète idéal, rencontre paradoxalement de réelles difficultés avec son voisin le Ghana. Les relations avec le président Kwame Nkrumah sont particulièrement mauvaises. Il rencontre avec lui des obstacles inattendus.
Le Ghana souhaiterait absorber la République du Togo dans sa totalité. Le mandat britannique arrivant à expiration, le Ghana pense que la suite logique est d'incorporer la part restante du Togo, ce à quoi bien sûr nous nous opposons. Et vous serez d'accord avec moi quand je vous dis qu'étant donné les conditions actuelles au Ghana, personne ne voudrait rejoindre un tel pays, sauf en passant par la guerre.
La question ghanéenne est une obsession, une telle obsession que la presse internationale imagine déjà une guerre entre les deux pays. D'où la question posée à Sylvanus Olympio, de passage aux États-Unis d'Amérique, de savoir qui volerait au secours de son pays en cas d'agression par son voisin.
I think the best measure to adopt, and that's what we are doing in West Africa just now, is to have
Je pense que la meilleure mesure à adopter, et c'est ce que nous faisons en ce moment même en Afrique de l'Ouest, c'est d'avoir une meilleure coopération entre les États africains. Comme vous le savez, nos pays appartiennent au groupe de Monrovia, et les principes de ce groupe sont basés sur une non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, le respect de la souveraineté et de l'intégrité de chaque État. Appartenir à ce genre de groupe est la meilleure réponse à des intentions ou des aspirations belliqueuses.
Or aspirations.
Does that mean, Mr. President, that if there should be an attack, I gather your army.
Est-ce que ça signifie, Monsieur le Président, que dans le cas d'une importante attaque, compte tenu du fait que votre armée a des effectifs limités, disons peut-être 700 soldats, vous pourriez être soutenu ou protégé par des membres du groupe de Monrovia, par les Nations Unies ou l'Union Soviétique?
Would you expect the Soviet Union, perhaps, to give you some protection, or the UN?
We have no particular.
Nous n'avons pas d'engagement ou de convention particulière avec l'Union soviétique, mais je suis certain que mes amis du groupe de Monrovia nous apporteraient au moins un soutien moral à défaut d'un soutien matériel. Et vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, cela peut peser lourd et dissuader une potentielle agression.
National, Sylvanus Olympio doit faire face à deux problèmes de taille, le redressement de l'économie togolaise et la double opposition politique. devant les très faibles ressources de ce pays de 55 000 km² qui compte un peu plus d'un million et demi d'habitants, Sylvanus Olympio décide d'imposer à la population d'énormes sacrifices afin d'équilibrer le budget. Pari difficile dans un pays où les seuls revenus importants proviennent d'un gisement de phosphate dont la capacité de production n'atteint pas un million de tonnes par an. Il va aussi miser sur l'agriculture et va même procéder à une répartition des terres et une amélioration des techniques agricoles à laquelle il attache une énorme importance.
Les problèmes du progrès de l'agriculture togolaise résident essentiellement en l'amélioration des pratiques culturales, assolement, engrais, taille, culture, attelée, etc. C'est donc une question d'éducation du paysan. C'est pourquoi les pouvoirs publics togolais veulent donner un essor considérable à l'encadrement et la vulgarisation agricole.
Ces mesures d'austérité vont contribuer à le rendre très impopulaire auprès des populations qui ne comprennent pas toujours sa stratégie. Le second problème auquel Sylvanus Olympio doit faire face est une double opposition, celle des anciens amis de son beau-frère Nicolas Grunetsky, appartenant au Parti du Progrès et à l'Union des chefs de la population du Nord, dont le leader est Antoine Meachi, et celle de la Juvento, parti des jeunes progressistes qui, après avoir constitué la section des jeunes du Parti d'Olympio, va le quitter pour se séparer de ce qu'il considère comme les vieux Togolais. Ils sont conduits par les leaders tels que Maître Anani Santos, l'un des avocats de Sylvanus Olympio, et Firmin Abalo.
La Juvento, telle que nous l'avons connue avant, n'existe plus. Vous savez très bien que Juvento avant était la jeunesse de CUT, ça veut dire de mon parti. Mais depuis quelque temps, la Juvento a voulu créer un parti tout à fait séparé du CUT, et nous avons accepté cette situation depuis l'année dernière d'ailleurs, et nous avons déclaré officiellement que nous reconnaissons l'Juvento seulement comme parti d'opposition. Depuis cette date, naturellement, il y a eu une vague de démissions des partis des Juvento pour former ce que nous appelons maintenant des groupes d'action de la jeunesse qui fait partie des comités d'unité togolaise. Ainsi, les Juvento aujourd'hui, en dépit de déclarations qui ont été répétées, à savoir qu'ils ne veulent pas être séparés des comités d'unité togolaise, n'existent plus comme un parti. Il reste vraiment, ils ont une situation assez précaire. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, Juvento comme parti n'a plus une influence proprement dit, ne représente plus ce qu'il représentait avant, ce n'est pas une exagération, tout le monde peut vous dire, au Togo. Et nous lui avons proposé de réintégrer les partis, ça veut dire notre parti qui était parti mère, et puis de supprimer les Juvento purement et simplement. Je crois que c'est ça qui va arriver bientôt.
En réalité, ce projet d'absorption de la Juvento sans les caciques du mouvement ne se fera pas. Au contraire, le ton se durcit de plus en plus. Gilles-Christ Olympio, qu'est-ce qui a empêché à votre père de faire cette nouvelle alliance avec le Juvento?
C'est après l'indépendance du Ghana que Nkrumah a encouragé les gens de la Juvento, qu'ils croyaient peut-être à tort raison, qu'ils étaient socialisants. Et Olympio était plutôt de tendance libérale. Par conséquent, il les a conseillés vivement de faire une position active au gouvernement de Sylvanus Olympio et de l'enlever du pouvoir si nécessaire.
En tout cas, en cette fin d'année 1961, le climat politique est de plus en plus tendu au Togo. Le président Sylvanus Olympio, qui redoute une stratégie de déstabilisation orchestrée par le président Kwame Nkrumah du Ghana, a durci le ton et se méfie de quasiment toute l'opposition perçue comme des instruments du voisin. On assiste à une dérive dictatoriale progressive qui va rendre l'atmosphère de plus en plus électrique irrespirable. Surtout que cette opposition politique est doublée d'une autre frustration héritée de la décolonisation. Des militaires de l'armée française qui exigent de plus en plus d'être reversés dans l'armée de leur pays. Une exigence que n'accepte pas du tout le président Sylvanus Olympio. Nous en parlerons justement dans un instant, juste après le journal, dans la suite de cette série qu'Archives d'Afrique consacre au premier président de la République du Togo. Restez avec nous pour la suite de cette série d'archives d'Afrique. Nous serons ensemble pour 20 minutes encore, juste après le journal. A tout de suite.